La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur. Je vous invite à la prière. Seigneur, en ce dimanche particulier où nous faisons mémoire, nous te demandons d'être avec nous aujourd'hui, que ton Esprit Saint nous éclaire, que ton esprit de paix éclaire ce monde. Permets que notre mémoire soit ferment de paix pour le monde d'aujourd'hui. Ne nous laisse pas rester dans les souvenirs du passé sans nous préoccuper de l'avenir de nos enfants. Bénis ce temps de culte et rassemble-nous dans la communion fraternelle. Amen. Et nous chantons ensemble le psaume 8. Je vous invite à vous asseoir pour un temps d'annonce particulier ce matin. Merci de votre attention.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte qui est effectivement un culte un peu particulier, non seulement parce que c'est celui de l'éducation biblique, mais aujourd'hui c'est le 11 novembre et c'est la commémoration de la fin, du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc nous avons souhaité placer ce culte sous le signe de la paix et c'est en communion avec la Gedächtniskirche de Berlin que nous, aujourd'hui, nous plaçons ce culte. En effet, une délégation de l'Oratoire du Louvre est actuellement dans cette église et va prononcer quelques mots et ça s'adressera à Berlin. Pendant ce temps ici, vous entendrez une prière d'intercession. Cette prière d'intercession a été co-rédigée par notre pasteur Béatrice Cléromazir et le pasteur Martin Germer à Berlin. Pour nous, c'est une bénédiction aujourd'hui que ce jour tombe un jour d'éducation biblique où nous allons partager ce désir de paix avec les enfants. Comme vous le verrez dans vos spontanés, ce sont les chants que nous réservons. C'est toujours un petit livret spécifique de l'éducation biblique. Nous chantons les psaumes de la réforme, les cantiques de louanges et prières. À 11h, les cloches de notre temple retentiront à l'unisson avec celles de nombreuses églises de Paris pour commémorer la fin des hostilités, en tout cas sur le front occidental, à 11h exactement, le 11 novembre 1918. Le chœur de l'oratoire dirigé par Fabien Aubé va interpréter un chant particulier, For the Fallen, qui est un chant qui a été écrit par un poète anglais en mi-septembre 14, qui est Sir Lawrence Binion, une musique de David Terry. Et alors ce chant est un chant dédié aux morts, aux champs d'honneur et plus particulièrement aux jeunes soldats. Et les paroles montrent combien ces jeunes soldats tombés ne verront pas la vieillesse arriver, ce que nous voyons, qui n'auront pas le poids des âges, mais que nous, le matin à l'aube et le soir au coucher du soleil, nous nous rappellerons toujours d'eux. Voilà, maintenant c'est la louange et je relaisse la parole à notre pasteur.
Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Avec le psaume 96. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, gens du monde entier. Chantez pour le Seigneur, chantez en l'honneur du Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu, jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. parler de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples, raconter des merveilles. Le Seigneur est grand et mérite bien qu'on le loue. Je vous invite à chanter le psaume 33, les strophes 1, 2 et 3 dans le psautier français. Écoutons la loi contenue dans la Bible. Dans le Deutéronome, il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours. » Parle, parle, Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Nous nous recueillons devant le Seigneur avec une prière qui est attribuée à un soldat d'une autre guerre, dans un autre temps et sur un autre continent, c'est-à-dire à un soldat de la guerre de sécession. Et se remettant devant le Seigneur, voilà ce qu'il dit. Je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche je reçus la faiblesse afin d'apprendre à obéir. Je demandais la santé afin de faire des choses plus grandes. Je reçus l'infirmité afin de faire des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté afin d'être sage. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Et je reçus l'impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie. Et je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais. Presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Je suis bénie plus que tous les hommes. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, au doute à chaque instant, et au-dedans, agneau de Dieu, Le Seigneur annonce sa grâce pour tous ceux qui se tournent vers lui et lui remettent leur vie. Et cette grâce nous vient de ce don inconditionnel de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous confessons notre foi avec cette confession de foi ce matin. Je crois que Dieu veut établir sur le monde entier son règne de justice, d'amour et de paix. Je ne crois pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible. Je crois qu'en Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'approche. Manifestant l'amour de Dieu pour nous, il nous appelle à nous aimer les uns les autres. Je veux croire à l'action modeste, au service des autres, à l'amour aux mains nues. Je crois que le Saint-Esprit donne vie à nos corps mortels et nous donne part à l'éternité de Dieu. J'ose croire au rêve de Dieu pour nous, un ciel nouveau, une terre nouvelle que l'amour habite. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vais maintenant laisser la chorale nous chanter un autre psaume. Je vous invite à vous asseoir en attendant que les cloches de cette église retentissent, comme toutes celles qui retentiront ce matin à Paris. Il est bientôt 11h du matin. Je vais demander à Charles de me rejoindre parce que Charles a quelque chose à partager avec tous ses amis de l'école biblique et du catéchisme. Et c'est une photo de son ancêtre en vêtements militaires, en habits militaires. Et je vais te demander de le déposer ici au-dessus de ses fleurs. Et comme ça, les enfants qui sont là verront ton aïeul. Alors, on va le poser comme ça, tu vois, c'est tout petit, donc c'est pas... Voilà, on va le déposer comme ça. Voilà, et comme ça, les enfants verront comment on était habillés quand on était officier à ce moment-là, et ce que c'était qu'un poilu, puisqu'on les appelait comme ça, hein, tu sais ça? Voilà, voilà, je vais te demander de regagner ta place, et je vais vous lire ces paroles du pasteur Wilfred Monod, quand il écrit après l'armistice, « Non, nous ne rêvons pas. Les cloches de Jésus-Christ ont sonné la paix. » Et il avait donc ce souvenir extraordinaire d'avoir entendu les cloches sonner partout pour fêter cette fin des hostilités, une fête en demi-teinte évidemment, puisque tant d'hommes étaient morts au front. Je vous invite à faire silence et nous allons entendre les cloches de ce temple. Il semblerait que ce soit plus difficile que prévu. Je vous invite à vous lever pour entendre cette lecture d'un autre pasteur des temples de Paris au moment de l'armistice. C'est le pasteur John Viennot. Toutes ces églises, le foyer de l'âme, l'oratoire du Louvre, le temple de l'étoile, tous ces temples ont édité ensuite les prédications qui ont été données au moment de la guerre 14-18, mais aussi après l'armistice. Voilà les cloches. Et voilà ce qu'il écrit dans sa prédication au moment de la fin des hostilités. Et je vais demander aux enfants de porter leurs fleurs auprès du monument qui fait mémoire de tous ces hommes tombés au combat. Voilà ce qu'il écrit. Et vous, les morts, comment seriez-vous oubliés en cette fête de la délivrance? Si les évadés de Saint-Quentin ou de Mulhouse ou d'ailleurs remontent de leur cave et reçoivent après 4 ans la lumière du jour, c'est à vous qu'ils le doivent. Si les Polonais reconstituent leur nation, si les Tchécoslovaques et les Italiens de Trieste et de Trente ont été débarrassés du joug pesant des Habsbourg, si les Serbes ont pu rentrer dans le pays d'où les expulsait la barbarie moderne, si les Belges sont à Bruxelles et si les habitants de Lorraine, d'Alsace et de Strasbourg ont pu saluer nos troupes de leurs douces larmes et de leurs acclamations éperdues, si un délire de joie peut éclater au pied des Vosges, c'est à vous, ô chers morts de la Grande Guerre, que cela est dû. Si nos combattants d'hier ont pu porter jusqu'à leurs lèvres le clairon sonnant, cesser le feu, s'ils marchent maintenant sans danger vers le Rhin, si dans les intervalles de leur marche ils remplacent par le jeu des exercices de la guerre, si nous sommes ici enfin tranquilles au milieu des drapeaux, c'est à vous que tout cela est dû. Sans doute, vos parents sont en larmes, mais, exaltés par votre héroïsme, ils peuvent dire « Nos bien-aimés ne sont pas morts en vain. Ce n'est pas en vain que tous les nôtres ont souffert. Cette guerre en valait la peine. » Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous écoutons la lecture de la Bible pour ce matin. Dans le prophète Michée, au chapitre 4, les versets 1 à 5. Dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et les peuples y afflueront. Les enfants, vous avez le texte biblique sous les yeux, normalement, dans vos petits livrets que nous vous avons remis. Une multitude de nations s'y rendra. Ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre une multitude de peuples. Il sera l'arbitre de nations fortes, même lointaines. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Chacun d'eux habitera sous sa vigne et sous son figuier et il n'y aura personne pour les troubler. » C'est la bouche du Seigneur Adonai, des armées, qui parle. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, au nom du Seigneur Adonai pour toujours et à jamais. Je vous invite à la prière. Seigneur, bénis notre lecture et notre écoute. Bénis nos paroles. Bénis tes serviteurs pour qu'ils annoncent fidèlement ce que tu veux pour nous. Nous te cherchons, Seigneur, à travers les témoignages anciens de ceux qui ont cru avant nous, de ceux qui t'ont décrit avant nous, de ceux qui ont voulu dire comment tu habitais leur vie. Tous ceux qui ont vécu des guerres et dont on parle dans la Bible, tous ceux qui ont travaillé à la paix, tous ceux qui ont cru en ta justice pour faire venir la paix. Nous sommes en communion avec eux ce matin et nous te demandons d'être nous aussi à l'écoute de ces paroles de paix que tu nous adresses. Amen. Parler d'une guerre que l'on n'a pas vécue est toujours difficile. Et seuls les documents que nous ont laissés les contemporains de la Grande Guerre et leurs témoignages peuvent nous éclairer sur ce que put être cette période, Comment prêcher en temps de guerre? Pour méditer sur ce temps de culte de ce matin, j'ai lu diverses prédications de beaucoup de pasteurs qui prêchaient pendant cette période. Je me suis demandé comment ils avaient fait pour encourager tous ceux qui étaient là dans leur église, tous ceux qui leur écrivaient aussi du front. Comment faire devant toutes ces familles où les hommes étaient décimés les uns après les autres? Dans cette chaire ici même, ou encore au temple de l'étoile, ou au temple du foyer de l'âme, des pasteurs ont prêché durant 4 ans, en cherchant chaque fois à rendre compréhensible ce qui arrivait à leur pays, à leurs paroissiens, et aussi à le rendre compréhensible à leur foi à eux. Le pasteur John Vienno, dont nous avons lu ce texte tout à l'heure, raconte dans sa prédication du 1er décembre 1918 ce qu'il avait vécu durant la semaine sainte de la même année. C'était le jour du Vendredi Saint. Les obus de la pièce à longue portée tombaient à intervalles réguliers sur Paris. Au moment de monter en chaire, l'un de vous m'apporta la nouvelle de la catastrophe de l'église Saint-Gervais. Il était pâle encore de l'affreuse vision qu'il avait entrevue. Pour écarter, sinon le danger de rupture du vitrage de cette salle, au moins pour écarter tout danger, nous nous pressâmes dans la sacristie autour du nom du crucifié. Il craignait en fait que la verrière extraordinaire du foyer de l'âme ne leur tombe dessus. Ainsi, sous les bombardements, les pasteurs tentaient de prononcer des paroles d'encouragement, si bénéfiques pour tenir au milieu du combat, comme ces paroles du pasteur Henri Monnier, qui dans un élan d'espérance disait le 1er janvier 1915, « Après avoir pris contact avec Dieu à l'heure de la grande angoisse, les âmes ne consentiront plus à laisser se relâcher un contact d'où elles auront retiré tant de force, une si complète maîtrise d'elles-mêmes, un si surnaturel apaisement, et elles aimeront celui qui leur aura si intensément révélé son amour. Voici, je fais toute chose nouvelle, annonçait-il en chair. » Cela nous paraît tout à coup étrange et très idéaliste, de montrer que toute chose peut être nouvelle, de dire cela, de l'affirmer dans une enchère, alors que la guerre fait rage autour et que les morts n'en finissent plus de se compter par milliers. Mais il faut imaginer alors la liesse qui s'est emparée des Français le jour où enfin les combats cessèrent. Le pasteur Wilfred Monod raconte, et soudain dans la grise lumière d'une matinée de novembre, un premier coup de canon révéla au monde sa délivrance. Instantanément, des drapeaux se précipitèrent aux fenêtres. J'entendis des cris de joie, des applaudissements et aussi les sanglots convulsifs qui m'étreignaient la gorge. L'inénarrable et glorieux signal éclatant sourdement dans les cieux attentifs a marqué un triomphe patiemment préparé d'âge en âge, à travers les siècles. Une manifestation de l'esprit du serviteur de l'Éternel, le surnaturel jusque boutiste, celui qui ne connaîtra jamais ni lassitude ni découragement jusqu'à ce qu'il ait établi sur la terre la justice. Magnifique cri de joie de ce pasteur qui se remémorait ce qu'avait été cette délivrance. Le pasteur John Vienno, lui, décrit le silence à l'inverse du bonheur indicible qui se fit plutôt sur les lignes de combat lors du cessez-le-feu de 11 heures. En effet, à 11 heures du matin, le même jour, comme par magie, le feu s'arrêta sur les lignes immenses et un silence impressionnant succéda au bruit formidable des engins meurtriers. Et ce fut alors dans le cœur de milliers d'hommes, un sentiment nouveau, écrasant et subi, celui d'une merveilleuse délivrance. En un clin d'œil, tous les hommes qui, une minute avant, n'étaient pas sûrs de vivre encore l'heure suivante, étaient rendus à l'espérance, à la vie. Mais comment parler d'une guerre quand on a comme ministère celui de prêcher l'amour de Dieu? Comment concilier la fraternité de tous les hommes avec la lutte pour sa nation? Dans sa prédication après la victoire, Wilfred Monod avoue: en lisant le décalogue du haut de la chaire évangélique, les pasteurs n'éprouveront plus un rapide vertige devant ce commandement « Tu ne tueras pas ». En effet, cette loi éthique devait diviser le cœur des prédicateurs d'alors. Comment pouvait-il prêcher ce commandement « Tu ne tueras pas » sans risquer d'ajouter à la tragédie d'être parti au front celle d'être des pécheurs? Comment prêcher en effet ce commandement? Comment vouloir absolument empêcher toute mort alors que tant de soldats étaient obligés d'aller au front et de tuer? Dans sa prophétie, le prophète Michée annonce un temps où la justice de Dieu s'accomplira, une justice pour tous les peuples, une situation qui rendra la guerre inutile, puisque Dieu arbitrera les conflits entre les peuples et leur rendra justice. Plus besoin d'armes de guerre, on les fondra pour en faire des outils agricoles afin de travailler à la subsistance des peuples. Déjà à l'époque de Michée, la guerre fait rage, et dans les livres bibliques, elle fait rage un peu partout si vous regardez bien. Il semble que rien ne puisse empêcher les hommes de trouver des raisons de se faire la guerre périodiquement. Même après avoir entendu les 10 commandements, cela ne les empêche pas de continuer à convoiter ce qui est à leurs voisins et à vouloir tuer leur ennemi. Le pasteur Wilfred Monod disait en chaire après la victoire: « Politiquement, nous entrons dans une ère nouvelle, celle de la solidarité internationale, plus de guerre. Socialement, nous entrons dans une ère nouvelle, celle de la fraternité nationale, plus de misère. » L'un et l'autre but s'imposent. Ce souhait d'une victoire morale, comme il l'appelait lui-même, succédant à la victoire militaire, ne s'est pas accompli. En 1939, les vaincus d'alors, humiliés par le traité de Versailles et ce qui s'en était suivi, repartaient en guerre sous le commandement d'un homme d'une férocité sans égale. La morale semble bien incapable d'empêcher les conflits armés. Et même le pacifiste Wilfred Monod ne condamnait plus le combat armé dès lors qu'il voyait qu'il fallait bien que son pays se défende contre l'agresseur voisin. Il ne suffit malheureusement pas de décréter la paix pour qu'elle existe, alors qu'il est plus simple de provoquer la guerre rapidement. La paix que décrivent les pasteurs dans leurs prédications semble être venue d'un coup, par simple décret, par miracle, disent-ils. Mais elle a mis beaucoup de temps à se réaliser, ce temps se comptait en vie humaine. Le journal Le Daily News avait fait un calcul terrifiant pour parler du nombre des victimes de la Grande Guerre. Si tous les morts de la guerre pouvaient se relever et défiler devant nous quatre par quatre, il faudrait jour et nuit 6 années complètes pour voir passer cette procession monstrueuse. Et si derrière les morts pouvaient défiler tous les mutilés, les blessés, les aveugles, les muets, 50 années ne suffiraient pas à les voir passer. Voilà le prix de la paix. Il ne suffit donc pas d'avoir de grands principes comme « tu ne tueras pas ». Même si le principe est bon, même s'il faut le vouloir, le répéter, l'encourager sans cesse. La Bible nous montre la première, que cela n'empêche nullement la guerre et la destruction de l'homme par l'homme. Il est parfois nécessaire d'entrer en guerre pour défendre sa liberté, pour défendre son pays ou un pays ami. Alors quand le prophète Michée espère qu'un jour les peuples suivront les commandements de Dieu, que la justice de Dieu s'établira sur cette terre, on comprend que c'est un souhait. Mais en attendant que le grand arbitre divin rende la justice, il faut avoir recours à la défense par la force, malheureusement, souvent, et peut-être trouver d'autres voies encore. Notre problème aujourd'hui, dans cette commémoration, est de nous souvenir de cette immense perte humaine que fut la Première Guerre mondiale, mais aussi de nous poser la question, qu'est-ce qui peut garantir une paix durable entre les États ? En regardant l'histoire de mon pays, je m'interroge, qu'est-ce qui peut garantir cette paix durable ? Nous sommes dans une période où nous parlons beaucoup de crise économique et de crise politique. Les États eux-mêmes semblent se déliter. Partout en Europe, des sursauts que nous appelons populistes prônent le repli des États sur eux-mêmes, la fermeture des frontières et le protectionnisme économique. Et quand on cherche un bouc émissaire en ce moment, l'Europe est toujours la responsable toute désignée, cette belle construction qu'il a fallu tant de temps à construire. Cette situation a de quoi nous inquiéter, car est-il envisageable de vivre longtemps en paix avec des voisins qui ne voudraient plus de contact avec nous ? Depuis Richelieu, on s'accorde à penser que la diplomatie permanente est la seule solution pour garantir la paix entre les États. Et même avec elle, cela ne suffit pas souvent. Et pourtant, même des chefs d'État qui se rendent cette semaine au Forum mondial pour la paix parlent de s'extraire des grands accords mondiaux qui étaient jusque-là reconnus par tous comme la base de discussion et un préalable à toute négociation entre les États sans violence. Sous prétexte de crise économique, de mouvements migratoires accrus de ces dernières années parce que d'autres font la guerre ailleurs, les peuples d'États européens ont d'abord réclamé la reconnaissance de leur identité, craignant pour elles sans doute, allant jusqu'à vouloir se définir selon une seule religion originaire. Puis ils ont réclamé le pouvoir de se définir selon une morale et des principes niant toute liberté individuelle, revenant sur des droits acquis, comme le droit de disposer de son corps comme on l'entend, par exemple le droit à l'avortement qui est remis en cause dans beaucoup d'États en Europe. Et tous posent comme solution politique, tous ces États qui ont pris ce chemin, ils posent comme solution politique possible à la crise économique qu'ils connaissent, celle de la fermeture de leurs frontières, celle de la fermeture commerciale. Mais que deviendront-ils s'ils sont fermés à leurs voisins, sinon des ennemis ? Et que deviendra la crise économique en Europe si les échanges entre États disparaissent ? La plus longue période de paix qu'ait vécue le royaume d'Israël, si vous relisez la Bible, est celle de la royauté de Salomon. Et ce n'est pas un hasard si ce roi fut aussi un extraordinaire commerçant avec tous les États environnants et un infatigable diplomate. Pour empêcher la guerre, ce roi développa des échanges commerciaux, culturels, intellectuels, avec tous ses voisins jadis ennemis. Il semble que seules ces relations d'échange et de confiance puissent empêcher durablement la guerre, car ils rendent les États interdépendants entre eux, les forçant à s'entendre et à se connaître. Cet équilibre nécessaire que chacun abandonne un peu cet équilibre nécessite que chacun abandonne un peu de ses certitudes identitaires, si tant est qu'elles puissent jamais être sincères, pour se laisser transformer par les autres, comme un tissu vivant qui se change au gré des influences qu'il subit au contact d'autres tissus vivants. Il est impossible de vivre seul. Il semble bien que, pour respecter le principe « tu ne tueras pas », il faille d'abord respecter l'existence de celui qui partage la terre avec nous, le connaître et échanger avec lui. Empêcher la guerre, c'est vouloir construire sans relâche la paix. Je voudrais maintenant m'adresser aux enfants qui sont ici, ce matin, avec nous, et dont nous avons la responsabilité de leur formation spirituelle et religieuse, et qui sont ceux pour qui nous devons choisir de construire avec nos voisins des relations de paix. Les enfants, vous êtes tous de petits Européens. Vous avez peut-être déjà dans votre famille des personnes qui sont nées ailleurs qu'en France, j'imagine, et même dans d'autres pays que les pays européens. Vous êtes, par votre culture protestante, doublement européen parce que les protestants ont toujours eu besoin de beaucoup de voyages en Europe, soit pour se réfugier quand on n'acceptait pas leur religion en France, soit pour échanger de nouvelles idées avec des gens qui voulaient changer le monde dans lequel ils vivaient. Vous parlez sans doute déjà, pour ceux qui ont déjà l'âge de le faire, une langue étrangère en plus de votre langue maternelle, peut-être l'allemand, l'espagnol, l'anglais. Aujourd'hui, nous faisons mémoire, les enfants, d'une guerre qui nous a opposés à des voisins directs, puisqu'il s'agissait des Allemands. Vous avez déposé, il y a quelques instants, une fleur blanche devant la plaque où sont notés les noms des soldats connus de l'oratoire et morts à la guerre pour que notre pays puisse continuer à être libre. Souvenez-vous toujours de ce geste que vous avez fait ce matin. Et quand vous grandirez, souvenez-vous que si l'on entretient la haine et le mépris envers son voisin, on risque un jour la guerre. Il faut donc construire la paix, chaque jour, par des relations et des échanges avec les autres, nos voisins, ceux qui vivent dans d'autres pays, qui ont une autre langue, une autre culture que nous, mais qui ont la même valeur aux yeux de Dieu. Si vous tissez des liens d'amitié avec ceux que vous rencontrerez, ici et ailleurs, vous vivrez en paix avec eux. Que le Seigneur nous inspire toute intention de construire la paix dans nos vies. Amen. Nous chantons le cantique 297, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir.
Ils veulent faire une annonce.
Après les annonces. Alors, de nouveau, quelques annonces actuelles. D'abord, pour remercier notre pasteur pour sa superbe prédication d'espérance, pour remercier Sarah Kim pour son accompagnement à l'orgue et le chœur de l'oratoire avec Fabien Aubé qui nous a réjouis tout à l'heure. Voilà, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, donc, les enfants qui ne sont pas encore inscrits à l'éducation biblique, que les parents n'aient aucune crainte, ils sont toujours les bienvenus, les inscriptions sont encore en cours. Après le culte, vous avez dans la grande sacristie, vous êtes conviés à vous réunir autour d'un verre de l'amitié. Et je pense que c'est après, vous allez... Non, je ne dis rien sur la suite. Et donc voilà, pour demain, lundi 12 novembre, vous avez d'abord à l'heure du déjeuner, entre midi et 13h30, une conférence du groupement protestant des artistes. Cette conférence va porter sur le graphique et le design industriel et est précédée d'un culte. Le soir à 19h jusqu'à 21h, c'est l'hébreu biblique avancé avec Christophe Zimanski Salverne. Mardi 12, c'est le partage biblique avec notre pasteur Béatrice Cléromazir. Donc vous savez, le principe, c'est débattre, analyser un texte biblique. Et le thème de cette année, c'est les grandes figures féminines de la Bible. C'est Salmono à 14h30 jusqu'à 16h. Jeudi, c'est l'hébreu biblique pour débutants qui est de 19h à 20h30 et parallèlement de 19h30 à 22h, Fabien Aubé fait répéter le chœur de l'oratoire. Le samedi 17 novembre au matin, c'est l'hébreu biblique découverte avec le pasteur Gilles Castelnau, qui assurera le culte dimanche prochain, accompagné à l'orgue par notre organiste titulaire, David Cassan. Alors, je vais vous faire maintenant quelques annonces pour l'avenir. Vous savez que le mois de novembre, c'est le mois de la vente de l'oratoire au bénéfice de l'entraide pour les personnes en difficulté. Donc, il y a d'abord le dépôt des objets, vêtements et collecteurs et tout ce que vous avez en bon état, naturellement, que vous pouvez faire les samedis 24 et les samedis 17 et 24 novembre de 14h à 16h, les dimanches 18 et 25 novembre de 10h à midi. La vente en elle-même a lieu les 30 novembre et 1er décembre avec un repas le samedi midi pour lequel on vous demande d'avoir la gentillesse de réserver. Le dimanche, c'est le culte de l'entraide, au bénéfice de l'entraide, le culte de, après la vente. Et le dimanche après-midi à 14h, vous aurez ici un concert qui s'appelle « Romantisme en avant », A-V-E-N-T, et qui est fait également participation libre au bénéfice de l'entraide. Et c'est un concert, comme son nom l'indique, avec beaucoup de musique romantique, piano, harpe, orgue et chant. Voilà, alors je reviens un petit peu en arrière parce que le dimanche 25 novembre, c'est le dimanche de l'après-midi de l'oratoire qui est un peu particulier, puisque là, ce sera Christiane Guttinger qui fera une conférence historique, Salmono, sur les protestants de Nogentel-Mono dans l'Aisne, une histoire exceptionnelle du 16e à nos jours. Voilà, et je vous demanderai de toujours bien avoir en tête que la fête de Noël de l'oratoire, c'est le 16 décembre, un culte présidé par notre pasteur Béatrice Cléromazir, mais également dans lequel vous entendrez un conte musical avec les enfants, la participation des scouts et du chœur de l'oratoire, et le thème ce sera les Huguenots en Nouvelle-France. Il sera suivi d'un brunch de Noël à midi, puis d'un concert à 13h30 à l'oratoire. Voilà, je crois que j'en ai terminé. J'ai simplement oublié de vous dire tout à l'heure que le culte de Berlin est radiodiffusé et je vais laisser la parole à nos routières.
Bonjour à tous, nous sommes Élise et Alice. Nous sommes donc les routiers de l'oratoire. On a pour projet de partir au Togo en août 2019. On est aujourd'hui devant la grande porte pour vous vendre des gâteaux et pour, on a des flyers pour avoir plus d'informations. Et aussi pour vous dire qu'on vend nos sapins et on les livre le premier week-end de décembre. Donc pareil, si vous voulez plus d'informations, on sera devant et on sera très ravis de vous informer sur tout, tout ce qu'on fait. Merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Alors pour ma part, je m'appelle Pierre Primo. Je suis le responsable de la troupe de l'oratoire, donc la branche des garçons éclaireurs de 12 à 16 ans. Et avec Renaud, présent avec moi, on a eu la chance de faire les louveteaux et les éclaireurs à l'oratoire. Et c'est certainement une des meilleures expériences qu'on ait jamais vécues. Et on serait ravis de la faire partager à d'autres jeunes. Donc si jamais vous avez dans vos connaissances des jeunes qui seraient susceptibles de nous rejoindre, nous serions ravis de les retrouver à la troupe. Il n'est en aucun cas obligatoire d'avoir fait les louveteaux avant pour commencer les éclaireurs. Et de même, ils peuvent venir après leurs 12 ans. Nos activités à la troupe se constituent d'un week-end par mois et d'un camp de 3 semaines au mois de juillet. Il est possible à tout moment de l'année de rejoindre la troupe, mais le plus tôt est le mieux. De plus, nos dates de week-end coïncident avec celles de l'école biblique, ce qui fait qu'il n'y a aucun chevauchement et vos enfants peuvent parfaitement participer à l'école biblique et aux activités de la troupe. Nous serons à la sortie du culte pour répondre à toutes vos questions et nous donner nos contacts si jamais vous voulez nous contacter. Et vos enfants sont les bienvenus à notre prochain week-end qui a lieu les 17 et 18 novembre, c'est-à-dire le week-end prochain. On a plein de matériel à leur prêter, ils peuvent venir et ils seront vraiment les bienvenus. Merci pour votre écoute et bon dimanche.
Voilà, c'est le moment maintenant de l'offrande. Donnez avec générosité pour que votre Église continue à annoncer l'Évangile et à accueillir les enfants comme elle le fait aujourd'hui. que dans des dizaines d'années, on trouve encore une église ici accueillante pour tous grâce à vos dons d'aujourd'hui. Voilà, ce matin, cette collecte sera reversée à l'Entraide, qui est un organe important de notre Église, évidemment, et qui nous permet de faire la volonté du Seigneur ici, dans cette Église. Merci pour votre offrande. Je vais maintenant laisser la parole aux moniteurs et monitrices d'école biblique pour qu'ils partagent avec nous la prière qui est lue ce matin à Berlin, en même temps qu'elle est lue ici en France, en communion avec le pasteur Martin Germer, qui a préparé avec moi cette intercession que nous allons partager ensemble.
De tous les côtés, les nations ont commencé et mené cette guerre atroce dans le sentiment fondamental qu'il fallait se défendre contre des ennemis surpuissants. Qu'est-ce que cela signifie pour notre foi à la non-violence de Jésus ?
Cette guerre n'était pas seulement une guerre des Européens, elle s'était prolongée au Proche et au Moyen-Orient, avec des résultats qui ont causé des problèmes profonds jusqu'à aujourd'hui. Et dans les batailles européennes, un grand nombre de soldats provenant des colonies étaient engagés. Nous voulons leur donner un souvenir public et prier pour la paix dans toutes ces régions secouées par des conflits permanents.
De tous les côtés, il y avait beaucoup de sermons appelant à la guerre. De tous les côtés, les armes ont été bénies. Les voix de chrétiens et de pasteurs comme votre pasteur Mono et notre pasteur Nitak Stan, qui déjà avant la guerre se sont prononcés pour éviter la guerre et pour trouver un chemin pacifique, ces voix n'étaient pas bien écoutées à l'époque même. Donc, nous voulons prier pour tout engagement pour la paix et pour la réconciliation de nos pays.
Prière du pasteur Béatrice Cléromazir. Notre Dieu, d'un côté et de l'autre du Rhin, des hommes, des femmes et des enfants t'ont prié avec la même ferveur, la même foi, la même liberté. De part et d'autre du grand fleuve, des théologiens ont parlé de toi avec des pensées sœurs, s'admirant mutuellement, s'imitant même parfois. La rive habitée par les uns fut même le refuge des habitants de l'autre rive en d'autres temps. Et les frères éclairés à la même lumière d'un Luther, d'un Bucer ou d'un Melanchthon se sont entretués dans un déferlement de rage. Alors, du Dieu de la fraternité qui les appelait à la conversion, tu es devenu dans leur discours le Dieu de la patrie qui les appelait à la guerre. Rappelle-nous, Seigneur, puisque nous faisons mémoire, que nous sommes tes enfants, frères éternellement appelés à vivre en paix.
Dieu de tous les hommes, de part et d'autre des frontières, de tant de pays, aujourd'hui encore, des femmes, des hommes et des enfants meurent sous les bombes et les balles d'autres hommes qu'ils connaissaient jadis en voisins pacifiques. Commerçant avec eux, échangeant leurs histoires, leurs langues et leurs cultures. Et de voisins qu'ils étaient, ils sont devenus ennemis mortels. Alors ton nom a retenti dans leurs cris pour justifier leurs crimes, pour faire de toi le dieu de leur armée, le garant de leur droit à anéantir leurs frères. Rappelle-nous, Seigneur, puisque nous faisons mémoire, que tu ne nous appartiens pas, toi le Très-Haut, et que ton nom est plus grand que nos guerres.
Dieu de tous les enfants, d'une génération à l'autre, nous portons le souvenir des conflits qui nous ont animés, qui ont animé notre histoire. De nos enfants à nos parents, nous partageons la mémoire collective de ce qui a détruit les hommes à travers les âges. Lieu identitaire, lieu nationaliste, lieu patriotique, la guerre. Et surtout celle que l'on n'a pas faite, est souvent le point d'origine de toutes nos fermetures à l'autre, de nos rejets, de nos peurs. Alors, ton commandement à aimer notre prochain se perd au milieu de nos a priori et nous transmettons des haines qui ne sont ni les nôtres ni celles de nos présumés ennemis. Rappelle-nous, Seigneur, puisque nous faisons mémoire, que c'est le monde de nos enfants que nos idées construisent. Amen.
Et nous nous levons pour dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le moment de recevoir la bénédiction de la part du Seigneur qui nous bénit tous en ce jour et qui bénit nos mémoires. Frères et sœurs, allez avec le souvenir de ceux qui ont acquis la liberté par leur propre vie. Soyez ferments du royaume en annonçant toujours l'amitié et la paix entre les peuples, toujours possible, toujours souhaitable. Que vos efforts pour vous entendre les uns les autres soient des efforts aussi pour annoncer cette possibilité de vivre en frères sur cette terre. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, nous fait grâce et nous donne sa paix. Amen.